Les enfants aussi vont avoir un temps pour recevoir l'enseignement du Seigneur et on veut aussi penser à eux, prier pour eux et on veut aussi les bénir. Alors je l'invite juste à prier pour eux avant qu'ils partent avec Sarah ou Mathieu ou les deux, avec Mathieu pour ce temps d'école du dimanche. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les plus petits qui sont au milieu de nous et qui sont un enseignement aussi pour nous. Que tu as placé dans nos familles, dans nos foyers, dans cette église. Nous voulons les bénir en ton nom et te demander que tu sois avec eux maintenant, durant ce temps où ils vont pouvoir être à l'écoute de ta parole aussi. Que tu bénisses aussi Mathieu qui les accompagne. Que ce temps soit béni et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre parmi ce groupe ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Voilà, c'est une joie de pouvoir encore se tourner vers la parole de Dieu ensemble et j'ai expliqué ça la semaine dernière, on entre avec, en église dans un temps particulier, un temps qui va nous emmener jusqu'au mois de juin, de prière, de réflexion, d'écoute, durant lequel nous voulons être à l'écoute de ce que Dieu veut faire pour cette nouvelle saison dans laquelle nous pensons que le Seigneur nous fait entrer actuellement en tant qu'église. Et voilà, le but de ces prochains mois, de ce travail sur un peu la vision ou le projet de Dieu pour l'Église, ça sera vraiment de prendre ce temps ensemble, tous ensemble, pour travailler, pour réfléchir, pour se mettre à l'écoute de Dieu à ce niveau-là. Et chaque mois, donc je l'avais annoncé, chaque mois il y aura un thème important avec ce mot acte, A-C-T-E-S. Donc en janvier, c'est le premier mois, c'est la lettre A. L'adoration. Comme l'alphabet commence par A, de la même manière, la vie de l'Église, c'est d'abord un acte d'adoration. Je ne sais pas si vous vous rappelez la prédication dimanche dernier, donc le thème un peu, c'était construire l'Église ensemble. Il y avait une photo là avec ce petit objet qu'on a construit ensemble. Hein. Vous vous rappelez, on est venu déposer une brique pour rappeler que nous sommes dans l'Église, non pas des briques, mais des pierres vivantes, chacun d'entre nous, des pierres vivantes qui construisons ensemble l'Église. Et si vous avez posé une brique pour symboliser ça, c'était une manière de dire « oui, je suis cette pierre vivante qui veut participer à la construction de l'Église ». Il y en a qui ont terminé, qui ont fait une jolie croix tout au-dessus. Vous vous rappelez que le fondement qui était déjà placé, c'était en forme de croix qui nous rappelait que le Christ est le fondement de l'Église. Et cette image, qui est une image biblique, nous sommes la construction de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle construction dans le Nouveau Testament. L'Église est le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne venons pas au temple, nous sommes le temple depuis que Jésus-Christ est venu. Et à quoi sert un temple ? Un temple, c'est un lieu aussi où on vient adorer, prier Dieu. Et donc, vous voyez, rien qu'avec cette image du temple, ça nous rappelle que l'adoration, c'est quelque chose d'essentiel de notre vie et de notre vie d'Église. L'Église est le temple de Dieu et nous, en tant que pierre vivante, nous sommes appelés à être des adorateurs. Alors, qu'est-ce que ça implique? Comment ça se manifeste dans la vie de l'Église? C'est un peu ça qu'on va voir ensemble ce matin. Et le premier point qui s'affiche déjà, c'est cette idée que l'adoration, c'est le but de mon existence. Peut-être que certains se sont déjà posés, je pense que tout le monde se pose un jour cette question, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Quel est le but de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Et cette question, elle est essentielle, elle est fondamentale. Et la Bible nous donne une réponse assez simple. Dieu m'a créé afin que je vive une vie pour lui rendre gloire, pour l'adorer. J'ai été créé par Dieu pour l'adorer. Comme on l'a chanté tout à l'heure, je suis né pour te louer. Je suis né, je suis sur cette terre pour louer Dieu. Et il y a un passage qui l'exprime bien et on va lire juste quelques versets. C'est une prière de Paul qu'on trouve au début de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Et Paul loue Dieu pour la façon dont il nous a créés, mais aussi dont il nous a sauvés, surtout en Jésus-Christ. Voici comment il dit cela. Éphésiens 1, verset 3. On va lire juste au verset 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait déjà choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, et là on voit le but de tout ça, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Voilà le but, pourquoi nous avons été créés et sauvés, pour célébrer la gloire de Dieu. Et Paul répète cela encore dans la suite du passage, on ne va pas le lire en entier, mais juste... Vous citez ces passages au verset 11, 12, la fin du verset 11, début du verset 12, qui dit « Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. » Et puis à la fin de cette prière, au verset 14, Paul dit « Le Saint-Esprit constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. » Dans quel but ? Pour célébrer sa gloire. Afin de célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire. Voilà la finalité, le but de notre vie. Si Dieu nous a créés, s'il nous a sauvés en Jésus-Christ, s'il nous a donné son Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions vivre une vie qui célèbre la gloire de Dieu. Le sens, le but de notre vie, c'est de vivre une vie d'adoration à la gloire de Dieu. Et là, on ne parle pas de passer sa vie à chanter, hein, ou des louanges, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous sommes. L'adoration, elle implique toute notre vie. Je sois au travail, mon travail doit être un acte d'adoration. Mes études, ou dans nos familles, dans nos relations, ou seul dans ma chambre. Je reste toujours le temple du Saint-Esprit, appelé à mener une vie à la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'ai été créé. C'est pour ça que Dieu m'a créé, qu'il m'a sauvé en Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est le but de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai toujours en tête? Quand je me lève le matin, est-ce que je me dis, voilà, aujourd'hui c'est une journée pour célébrer la gloire de Dieu dans tout ce que je vais faire? Est-ce que quand je vais au travail, je dis, ouais, Seigneur, je vais travailler pour ta gloire, pour célébrer ta gloire? Est-ce que quand je fais des études, quand je me lève le matin là, pour aller à l'école ou pour aller à la fac, est-ce que je dis, ouais, cette journée, ça va être pour célébrer ta gloire dans mes études? Est-ce qu'on a ce réflexe-là? Alors certains diront, ouais, bon, toi, c'est facile, tu es pasteur. C'est pas si facile que ça, figurez-vous, mais c'est vrai que certains diront peut-être, moi, mon travail, c'est peut-être faire du ménage, ou bien de remplir des tableaux Excel, ou bien de faire des comptes, ou bien, je sais pas, voilà, on a différents métiers ici, faire des fiches de paye. Comment ça peut être un acte d'adoration? Et je crois que pour prendre cet exemple du travail, il y a deux choses qui peuvent nous aider à faire de cela un acte d'adoration. C'est premièrement de se rappeler le sens de notre travail. Par exemple, si votre travail c'est de faire le ménage, rappelez-vous que tout ce qui est dans ce monde a été créé par Dieu. Et Dieu nous invite à prendre soin de sa création. Et quand je nettoie chez moi ou au travail, je prends soin de cet environnement dans lequel le Seigneur m'a placé. Quelque part, de ce qui lui revient. Je participe aussi peut-être à une bonne hygiène. Et en faisant cela, parce que c'est aussi le but du ménage, hein, j'évite que les personnes qui passent dans ces lieux tombent plus souvent malades. Je prends soin des créatures de Dieu. Vous voyez, n'importe quel métier, je crois, et c'est bien d'y réfléchir, de dire, voilà, quel sens ça a dans le plan de Dieu. Et ça a toujours un sens. Bon, tant qu'on ne fait pas un métier immoral, mais ça, c'est, je pense, ça ne nous concerne pas ici. Ça, c'est une première chose. Quel est le sens de mon métier? Et il y a toujours un sens, il y a toujours quelque chose de beau. Et deuxièmement, c'est la manière dont je vais faire ce travail qui pourra transformer ça en un acte d'adoration. En Colossiens 3, verset 23, Paul il écrit à des esclaves. Il y avait des esclaves, beaucoup, dans l'Empire romain à cette époque-là, dans l'époque du Nouveau Testament. Et voyez ce qu'il leur dit. Il leur dit, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur, et non pas pour les humains. Vous savez, les esclaves, ils ne faisaient généralement pas les travaux les plus passionnants ou les plus gratifiants. Mais en tant que chrétien, on doit se rappeler que quel que soit mon travail, je fais cela pas simplement pour les hommes, mais je me rappelle que mon patron ultime, c'est le Seigneur. Est-ce que ma façon de travailler lui rend gloire? Alors ça vaut pour le travail, mais ça vaut aussi pour tout le reste, toute ma vie. Même les actes les plus banals du quotidien sont appelés à être des actes d'adoration pour Dieu, où je bénis Dieu. Vous savez, dans la tradition juive, il y a même une prière de louange, de bénédiction que les juifs récitent lorsqu'ils sortent des toilettes, après avoir fait leurs besoins. Alors, dans la tradition juive, d'abord sortir, se laver les mains et après dire la prière. Et c'est une très ancienne prière qu'on trouve dans le Talmud, qui s'appelle Asher Yatzar, et qui dit ceci, « Sois loué notre Dieu, roi de l'univers, qui a façonné l'être humain avec sagesse et qui a créé en lui de nombreux orifices et cavités. Il est clair et évident devant le trône de ta gloire que si l'un d'eux devait se boucher ou se percer, nul ne pourrait survivre, même un laps de temps. » C'est une prière qui récite dans la tradition juive. La prochaine fois que vous allez aux toilettes, louez Dieu pour le bon fonctionnement de votre système digestif. Et la médecine moderne montre que si ça marche, si votre système digestif ne fonctionne pas du tout, c'est la mort. C'est ce que rappelle cette prière aussi. Si ça ne fonctionnait pas, vous seriez déjà mort. Chaque détail de notre vie, vous voyez, même les choses les plus auxquelles on ne penserait pas forcément, hein, ça peut être un acte d'adoration. Est-ce qu'on réalise cela? Est-ce que notre façon de manger est un acte d'adoration? Notre façon de dormir, de gérer notre sommeil et à la gloire de Dieu? Est-ce que nos loisirs sont des temps à la gloire de Dieu? Si Dieu souhaite que nous vivons une vie d'adoration, voilà, à sa gloire, là aussi, il faut se dire que ce n'est pas pour nous embêter. Ce n'est pas parce que ce serait aussi un Dieu égoïste qui aimerait tout centrer sur lui, non. C'est parce qu'il sait, et parce qu'il nous aime, qu'il sait que c'est ce qui est le meilleur pour nous. Que c'est comme ça seulement qu'on pourra être vraiment heureux. Et essayez de vivre dans les jours qui viennent, votre journée comme un temps de louange. Tout ce que je fais, cherchez pourquoi je peux louer Dieu. Et vous verrez la joie, la paix que ça procure. Ça change notre mentalité, notre façon de vivre. J'ai été créé pour l'adorer, pour le louer. J'ai été sauvé pour ça. L'adoration, elle est, vous voyez, centrale dans la vie chrétienne. Ça, c'est un premier point. Mais maintenant qu'on a bien compris que l'adoration concerne toute notre vie, venons-en à la deuxième partie. Quelle est l'importance de l'adoration dans la vie de l'Église? Parce qu'on cherche un peu aussi, on travaille sur ça, sur la vision de l'Église, mais bah, quelle place pour la louange, pour l'adoration dans la vie de l'Église? Alors on va se dire, si toute notre vie elle est appelée à être un acte de louange et d'adoration, c'est la même chose quand on se retrouve ensemble. Nous sommes chacun d'entre nous le temple du Saint-Esprit. L'Église rassemblée est aussi le temple du Saint-Esprit. Et toutes nos activités, d'une certaine manière, sont appelées à être des actes d'adoration. Tout ce qu'on fait, et pas seulement le temps de louange, quand on chante ensemble le dimanche matin, lorsqu'on prie ensemble, mais aussi lorsqu'on lit la Bible ensemble, mais aussi lorsqu'on fait la vaisselle ensemble, lorsqu'on monte le baptistère, je fais des annonces à l'avance, qu'on doit ranger les chaises de la salle de culte, ce qu'on fera cet après-midi. Voilà. C'est aussi des actes, on est appelé à faire ça comme des actes d'adoration. J'aimerais me focaliser un peu plus aujourd'hui sur ce que on appelle généralement nos temps de louange et sur les temps dans la vie de l'Église où nous exprimons ensemble notre adoration de façon explicite, on pourrait dire, à Dieu, à travers des chants, à travers des prières, à travers des gestes ou des fois d'autres formes d'expression, mais ce qu'on appelle généralement la louange dans l'Église. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se réunir pour louer Dieu, hein, on l'a vu, même en chemin. Pour chanter à Dieu des louanges ou pour prier Dieu. Et c'est une très bonne chose de louer Dieu à la maison, hein, de prendre du temps chez soi, en famille ou seul dans sa chambre ou sous la douche si vous préférez, même aux toilettes, voilà, pour louer Dieu. Et puis on a la chance de vivre à une époque où grâce aux technologies modernes, on peut avoir les meilleurs lévites à la maison. C'est ce que c'est les lévites dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui étaient chargés notamment de faire la musique dans le temple, de faire la louange dans le temple. C'était un peu les pros de la louange de l'époque. Aujourd'hui, grâce aux enregistrements audio et vidéo, et puis avec Internet, c'est encore plus facile, on peut nous laisser entraîner par les meilleurs groupes de louanges du monde entier, hein, et ça depuis chez soi. C'est quand même extraordinaire et c'est bien de ne pas s'en priver. Et là, on peut se dire, mais à quoi ça sert alors de venir se réunir ici ensemble? Puis bon, moi je suis très reconnaissant pour le groupe de louanges qu'on a et on a la chance d'avoir je tiens à les honorer aussi pour leur service et c'est vrai que je les vois répéter, ils prennent beaucoup de temps, hein, pour nous conduire dans la louange. Mais il faut être honnête, voilà, on n'est pas non plus ils sont, hein, on n'est pas, voilà, on n'a pas les moyens et les musiciens de ces énormes églises qui sont le top du top au niveau mondial. Est-ce que du coup, pourquoi je viendrais ici louer alors que je peux avoir mieux sur YouTube ou Spotify en qualité musicale en tout cas? Eh bien, figurez-vous que la Bible nous présente des bonnes raisons de se retrouver pour louer Dieu ensemble. Et je vais en mentionner trois principales. Premièrement, la Bible nous promet une présence particulière du Seigneur au milieu de nous lorsque nous nous réunissons pour l'adorer ensemble. Jésus a dit, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une présence particulière du Seigneur lorsque nous nous réunissons en son nom ensemble pour le louer, pour le prier. Si vous lisez le livre des Actes, vous verrez que dans le chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ou bien encore au chapitre 4, lorsque les disciples sont réunis, ils sont en train de prier ou de louer Dieu, et le Saint-Esprit vient les visiter, les encourager, les équiper, pour qu'ensuite ils puissent aller témoigner de lui. Le Seigneur bénit particulièrement lorsque les chrétiens, les frères et sœurs se réunissent en son nom, pour le louer, pour le prier. Il y a quelque chose, une présence particulière du Seigneur lorsque nous nous assemblons pour l'adorer. Et notez bien que le Seigneur ne dit pas « Lorsque deux ou trois musiciens professionnels, une guitare, un synthé, une batterie se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Non, il ne dit pas ça, hein. Il dit juste deux ou trois, sans précision, hein. Et si vous regardez aussi le contexte dans lequel Jésus dit ça, c'est où est-ce qu'on trouve cette parole? C'est dans Matthieu au chapitre 18. Et je ne sais pas si certains se souviennent de quoi est le thème de ce chapitre. Le thème de ce chapitre, c'est les relations entre les frères et sœurs chrétiens, et plus particulièrement la question du péché et du pardon dans la vie de l'Église, dans la vie d'une communauté de disciples du Christ. Et dans les versets qui précèdent cela, Jésus fait tout un développement sur la question du péché, sur la question des conflits aussi qui peuvent avoir des fois entre un frère et sœur, et lorsqu'un frère a péché contre toi, va le trouver, etc. Il y a toute cette démarche, la question de la discipline, la question de la repentance. Et puis arrive ce verset, et après notre verset, Jésus continue sur la question du pardon. Pierre vient le trouver en disant, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Jésus va lui dire 70 fois, 7 fois. pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et c'est au milieu de ça que Jésus va dire, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, il n'est pas en train d'évoquer l'église parfaite où tout va bien, les relations sont parfaitement harmonieuses, le groupe de louanges, il ne fait jamais aucune fausse note, le prédicateur, il est passionnant du début à la fin, il n'y a jamais personne qui dort pendant les prédications. Les lumières, la sono, ça vous fait sentir les vibrations de la présence de Dieu. Non, la promesse de Jésus, ce n'est pas pour une église instagrammable. Hein. Vous savez, l'église instagrammable, c'est celle où on veut faire croire que tout est parfait. Ça n'existe pas. Jésus parle ici d'une église très réelle, composée d'hommes, de femmes qui sont réelles, qui ont des défauts, qui sont atteints encore un peu par le péché. Et des frères et sœurs qui se connaissent bien, qui savent peut-être quels sont les points sensibles de l'autre. Et Jésus dit, soyez attentifs à ça. Des frères et sœurs qui se disputent même parfois, qui font du mal aux autres, mais qui sont appelés, dit Jésus, à demander pardon et à pardonner, à se réconcilier. Et c'est ces deux ou trois-là dont parle Jésus ici. Lorsque ces deux ou trois-là, ils arrivent à se mettre ensemble pour louer Dieu, alors Jésus dit, je suis présent. Lorsqu'ils reconnaissent que c'est au nom de Jésus et par lui seul qu'ils sont réunis, alors Jésus est au milieu d'eux. Oui, cette promesse, elle est pour une église qui vit des vraies relations. Hein. Ce n'est pas l'église utopique où je viens juste assister à un concert. C'est pour ça que c'est important de se réunir pour louer Dieu avec des frères et sœurs que vous connaissez vraiment, avec qui vous avez des vraies relations. Premier point, la promesse de la présence de Dieu. Et deuxième point, deuxième raison à pourquoi c'est bien de se retrouver ensemble, c'est parce que la louange, ce n'est pas juste pour Dieu ou pour moi quand on se réunit. À travers la louange, nous sommes appelés à nous exhorter, nous encourager les uns les autres. C'est un temps d'encouragement mutuel. Et quand vous regardez les textes du Nouveau Testament au sujet de la louange, c'est quelque chose qui revient. En particulier, par exemple, dans ce verset de Colossiens 3, verset 16, qui dit « Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse, enseignez-vous et exhortez-vous en toute sagesse, comment ? Par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Tout votre cœur. Pourquoi ? Parce que vous vous enseignez, vous vous exhortez mutuellement à travers ces chants. » Et ça, c'est quelque chose qui revient. Le chant d'assemblée, il est dans le Nouveau Testament toujours lié à l'exhortation mutuelle. À l'édification. On a vu la semaine dernière, on est appelé à édifier l'Église ensemble, à construire l'Église ensemble. Et quand je viens louer le Seigneur avec mes frères et sœurs, je participe à ça. Éphésiens 5, 19 dit littéralement « Parlez-vous les uns aux autres par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. » Nous, on aurait tendance à dire « Moi, je viens louer Dieu. » Et bien Dieu nous dit « Ouais, ben, vous parlez aussi les uns aux autres quand vous chantez ensemble. » Quand vous réunissez ensemble. Lorsque je viens louer Dieu en église, je ne suis pas tout seul avec Dieu. Ça, quand je suis à la maison, je suis tout seul avec Dieu, dans ma chambre. Mais là, ce n'est pas le cas. Et mes chants s'adressent aussi à mes frères et sœurs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Lorsque nous louons Dieu ensemble, nous sommes en train de nous encourager mutuellement à travers les paroles de ces chants. Nous participons à nous construire les uns les autres, à nous faire grandir dans la foi. En tout cas, c'est ce qu'on est appelé à faire lorsqu'on se réunit. Je ne sais pas si c'est toujours notre état d'esprit. Hein. Quand on vient le dimanche au culte pour participer à la louange, souvent on s'attend à recevoir quelque chose. On s'attend à vivre des bons moments dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'il y a cette promesse, hein, quand deux ou trois sont réunis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose de bon. Mais le Seigneur nous invite ici, non pas à recevoir, mais à nous enseigner les uns les autres, par la louange. Parfois, voilà, on dit, bon, moi, la louange, elle a été bonne ce matin, parce que j'ai ressenti quelque chose, ça m'a fait du bien, parce qu'on a chanté les chants que j'aime bien. Vous pouvez chanter les chants que vous aimez bien à la maison et sur YouTube quand vous êtes tout seul, il n'y a pas de souci. Mais la louange, quand on se réunit, ce n'est pas pour moi. La louange, quand on se réunit, je suis là pour louer Dieu et encourager mes frères et sœurs à travers cela. Alors, quand vous vous préparez à venir au culte le dimanche matin, dites-vous, waouh, je vais aller encourager mes frères et sœurs en chantant pour Dieu de tout mon cœur, comme dit le texte. Hein? Ça devrait être mon attitude. Et c'est vrai, lorsque vous avez toute une assemblée qui se met à louer Dieu de tout son cœur, il y a quelque chose quand même. Hein? Quand on voit ces frères et sœurs qui sont là, qui louent le Seigneur, ça nous encourage. Ça nous édifie. C'est pour ça que c'est important aussi de venir à 10 h le matin. Parce qu'on commence par la louange dans nos cultes. Hein. On commence par la louange dans nos cultes, par les temps de louange. Et puis en plus, notre équipe, elle est là depuis bien avant 10 h. L'équipe de louange, ils ont répété la veille. Je ne viens pas juste pour moi recevoir. Je viens pour mes frères et sœurs aussi. Pour le Seigneur, bien sûr. Mais pour mes frères et sœurs aussi, pour les encourager. Et c'est une marque de respect de venir à l'heure, quand ça commence, pour les encourager, pour les exhorter, pour les édifier. Oui, rentrer dans cet état d'esprit où je ne viens pas juste pour centrer sur moi, mais centrer sur les autres. C'est l'exemple du Christ. Deuxième raison donc pour de se réunir. Pour louer Dieu ensemble, quand je fais cela, je participe à encourager mes frères et sœurs. Je les exhorte par des chants. Je les aide à progresser dans la foi parce que, là aussi, les paroles de nos chants, on ne chante pas la lambada ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on chante? Le texte nous dit, exhortez-vous par les paroles de Christ. C'est la parole de Dieu. C'est des vérités bibliques que nous chantons ensemble. Normalement, en tout cas, j'espère. En général, on fait attention à ce qu'on chante dans nos temps de louange. Mais c'est des chants qui ont qui sont des fondements bibliques, c'est des vérités de la parole de Dieu que nous chantons ensemble, ce n'est pas des futilités. Et quand on le chante ensemble, on se le dit aussi les uns aux autres, on se dit, voilà, ah ben tiens, lui aussi, il croit la même chose que moi, ah, et cette sœur aussi. On réalise que nous ne sommes pas seuls à croire ces vérités. Il y a d'autres hommes, d'autres femmes qui chantent avec moi. Des hommes et des femmes qui sont réels, bien concrets. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour eux dans la vie de tous les jours. Je les connais. Et pourtant, ils sont là, à louer Dieu avec moi. Troisième raison à l'adoration communautaire, c'est que c'est aussi un témoignage pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, pour les non-chrétiens. Pourquoi? Parce que l'adoration nos cultes, l'adoration communautaire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en secret. On a la chance de vivre dans un pays où on peut exprimer notre foi librement. Nos cultes sont publics. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir assister à nos cultes, à nos réunions. Il n'y a rien de secret. Et dans ce cas-là, il y a parfois des gens qui ne sont pas encore à Christ, qui sont en recherche, qui se posent des questions, qui sont présents. Et nos louanges sont un acte de témoignage pour ces personnes-là aussi. En 1 Pierre au chapitre 2, c'est un texte que j'ai lu la semaine dernière, qui parle de la construction de l'Église, on est les pierres vivantes qui construisons l'Église, et on a cette affirmation au verset 9, juste après le texte qu'on a lu la semaine dernière. Mais vous êtes un peuple élu, vous l'Église du Christ, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, dans quel but? Pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et ici, on est dans un texte qui nous parle de l'Église. C'est vous ensemble, vous êtes appelés à célébrer bien haut. Et le verbe qu'on traduit ici par « célébrer bien haut », littéralement, en grec, c'est un verbe qui dit « aller annoncer au dehors »,« aller porter une nouvelle ». C'était un verbe qui était utilisé notamment pour décrire l'action des messagers dans l'Antiquité qui couraient d'une ville à l'autre. Vous savez, on n'avait pas Internet ou de téléphone à l'époque. Donc on envoyait des messagers qui couraient d'une ville à l'autre pour annoncer des nouvelles ou mettre en garde contre l'arrivée d'un ennemi, d'une attaque, ou pour annoncer une victoire notamment aussi. De la même manière, ce texte dit, nous sommes appelés ensemble à courir, annoncer ce que Dieu a fait pour nous, à célébrer ses grandes œuvres. Et Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose d'incroyable, de difficile, vous remarquez ici, de louer simplement devant les hommes, les êtres humains, ceux qui nous entourent, de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Juste de parler à haute voix de ce qui fait que nous sommes sauvés. Et une manière de le faire ensemble, parce qu'on peut le faire bien sûr dans notre témoignage de tous les jours, mais une manière de le faire ensemble, c'est aussi à travers la louange qu'on a lors de nos cultes. Et c'est vrai que nous sommes appelés à former ensemble un peuple de prêtres. Et c'est lorsque notre louange, notre témoignage, notre vie en Christ va s'ajouter à celle de nos frères et sœurs, hein, on entre aussi dans cet appel d'adorateur consacré au Seigneur. Nous sommes ce temple en l'honneur de Dieu. Et on peut le faire à travers justement ce temps de louange qu'on a aussi et qui sont. Parfois, on a des personnes qui arrivent et qui disent, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Ou bien qui sont en recherche et qui viennent dans l'église. Et le Seigneur veut utiliser ces temps-là. Et je crois qu'il le fait souvent, et il y a beaucoup de témoignages, hein, de gens qui sont touchés par ces temps de louange, alors qu'ils ne connaissent pas encore Christ et qui vont parfois même le rencontrer à travers ces temps-là. Parce que vous savez, un non-croyant se trouve face à un chrétien seul qui dit, moi, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, voilà ce que le Dieu vivant a fait dans ma vie en Jésus-Christ. Alors peut-être cette personne peut dire, ouais, c'est quand même intriguant là, ce que tu me dis là, ou peut-être qu'on peut être impressionné par la foi de ce chrétien. Mais lorsque vous retrouvez face à des dizaines, des centaines, des fois des milliers de chrétiens qui proclament tous ensemble les hauts faits de Dieu dans leur vie, je crois que c'est un témoignage encore plus puissant. Ça vient manifester aussi quelque chose, questionner, hein. Troisième raison, hein. Ne chantons pas des louanges uniquement pour nous encourager les uns les autres, mais aussi pour témoigner publiquement. C'est une forme de témoignage public de notre foi auprès de peut-être de gens parfois qui peuvent être présents et qui ne croient pas encore. Voilà donc trois raisons pour lesquelles c'est une bonne chose de se retrouver pour louer Dieu ensemble. Premièrement, parce que le Seigneur nous promet de manifester sa présence de manière particulière lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis là, dit Jésus. Deuxièmement, parce que nous nous encourageons les uns les autres à travers la louange, à travers les paroles ou les chants que nous chantons. Puis troisièmement, parce que c'est une façon de témoigner aussi de notre foi commune. On l'a vu, hein, toute notre vie, elle est appelée à être un chant de louange, hein, pour notre Dieu, pour tout ce que l'on fait. Mais là aussi, je crois que le fait de se réunir pour louer Dieu ensemble, c'est aussi quelque chose qui nous aide à vivre cela ensuite au quotidien. Lorsque nous sommes l'Église dispersée, on pourrait dire, dans nos semaines, dans le sens que on est ensemble le dimanche, on est l'Église rassemblée, et peut-être le jeudi soir et à d'autres moments de la vie de l'Église, mais l'Église continue d'être l'Église, hein, tous les jours de la semaine. Et quand on se rassemble, ça nous aide justement à entrer dans cet appel d'adoration, d'adorateur. Alors peut-être un mot, je terminerai peut-être avec quelques réflexions pratiques. Il y a peut-être des gens pour qui c'est pas facile de chanter, hein. Tout le monde n'est pas des chanteurs nés, hein. Peut-être des gens qui sont mal à l'aise avec le chant. Et, voilà. J'aimerais peut-être vous laisser quelques pistes, réflexions pratiques. La première, c'est que chanter, ça s'apprend. Et c'est vrai que le chant a beaucoup de place dans notre vie d'église. Et on croit que c'est quelque chose qui a une certaine force aussi de chanter les vérités bibliques, c'est quelque chose qui ancre aussi les vérités bibliques dans nos mémoires. Et donc peut-être que si vous avez du mal à chanter, ben, vous pouvez aussi vous dire qu'il n'y a pas d'âge hein, pour apprendre. Hein. Peut-être que certains ont la possibilité de prendre des cours, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller voir, on a quelques bons musiciens et chanteurs ici d'habitude. Vous pouvez leur demander quelques conseils ou savoir un peu voilà, comment je peux faire pour arriver à mieux chanter. Il ne faut pas prendre ça comme une fatalité. Hein. Dieu nous a créés tous avec des cordes vocales, à moins d'un handicap ou quelque chose qui nous bloque hein, physiquement. Mais en tout cas, voilà, il nous a créés avec des cordes vocales et on est capable normalement de pouvoir chanter. Deuxièmement, le chant, ce n'est pas la seule manière de louer Dieu ensemble. Hein. Et je crois qu'on voilà, on essaye d'avoir aussi des temps de prière libre, de permettre à ceux qui le souhaitent d'exprimer par une prière courte une louange à Dieu. Alors, c'est bien que ce soit court parce qu'on est nombreux et on espère qu'on le sera de plus en plus. Et si on veut que plusieurs s'expriment, il faut aussi qu'on leur laisse la place et permettre... Voilà, donc, mais même juste une phrase, une parole de louange pour Dieu, avec mes mots, c'est aussi quelque chose qui peut encourager mes frères et sœurs. Et le Seigneur utilise cela et il se réjouit aussi de cela. Donc n'hésitons pas. Il n'y a pas besoin de faire des très grandes prières ou de belles prières. Il n'y a pas de notation à la fin du culte sur la qualité de nos prières. Mais des fois, une phrase simple, avec des mots simples, ça va toucher parfois aussi certaines personnes et encourager d'autres. On peut aussi louer Dieu avec notre corps. Avec le reste de notre corps, la bouche, ça fait partie, les cordes vocales aussi, mais voilà, des fois de bouger un peu sur un chant joyeux, c'est une manière d'exprimer notre joie pour le Seigneur. En levant les mains, c'est une manière de dire au Seigneur, on t'honore, en frappant des mains, en s'agenouillant. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de forcé, on n'est pas en train de faire semblant, on n'est pas au spectacle, à vous faire, voilà. Mais que ce soit quelque chose de naturel. Mais ça peut être aussi, si peut-être j'ai du mal à chanter, ou même si je chante bien, je peux aussi manifester à travers mon corps une façon de louer Dieu. Encore une fois, je ne fais pas ça pour moi ou pour attirer l'attention, mais toujours me dire, est-ce que c'est une manière aussi d'encourager mes frères et sœurs? Parce que je ne suis pas tout seul pendant le culte. À la maison, je peux faire tout ce que je veux, vous pouvez crier autant que vous voulez. Mais... tant que les voisins le supportent, mais en église, je ne suis pas tout seul, il y a les frères et sœurs qui sont là. Et puis, il y a peut-être des choses qu'on pourrait explorer aussi en tant qu'église sur d'autres formes d'expression, à travers l'art notamment. Il y en a qui font du dessin, de la peinture peut-être, et parfois c'est des formes aussi qui peuvent être des manières de louer Dieu. On peut réfléchir à la façon dont ça peut s'exprimer aussi dans la vie de l'église. C'est pour ça qu'on a aussi des temps de réflexion, de travail sur cette question de l'adoration en Église durant ce mois. Voilà quelques pistes pratiques. Et rappelons-nous de la beauté, la force de la louange en commun. Pour terminer et peut-être répondre à cette parole, ben je vous inviterai peut-être à prendre un chant. Alors je vous demandais si le groupe de louange veut bien me guider dans un chant et... Et de cette manière, voilà, c'est une manière de mettre en pratique tout ce qu'on a entendu là, qu'on puisse chanter de tout notre cœur, pour nous rappelant que voilà, le Seigneur honore cela, de sa présence. Le Seigneur aussi souhaite nous utiliser pour nous encourager les uns les autres. Et puis, c'est un beau témoignage aussi qu'on dit publiquement à travers ces chants. Est-ce qu'on pourrait se lever tous ensemble? Je vous invite à la prière.